les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle.
Dans cette édition spéciale, le Conseil constitutionnel nous parle de la question prioritaire de constitutionnalité. Épisode 1, la question prioritaire de constitutionnalité, une révolution de velours. Chères auditrices, chers auditeurs, ce premier épisode nous est présenté par M. Laurent Fabius, ancien Premier ministre et actuel président du Conseil constitutionnel depuis le 8 mars 2016. Il nous raconte les grandes étapes de l'évolution du Conseil constitutionnel depuis sa création en 1958, notamment l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, dite QPC, 50 ans plus tard, en 2008.
Moi, je serais plutôt enclin à redouter les vides de l'état de droit, les zones de non-droit, les lieux où l'arbitraire se réfugie, la méconnaissance des règles de droit par ceux qui ont à les appliquer. C'est plus cela qui me préoccupe que l'état de chicane. C'est un état de droit qui serait un peu à la Potemkin. On aurait des institutions, mais elles ne toucheraient pas à l'essentiel, c'est-à-dire qu'elles n'assureraient pas la protection des libertés fondamentales. Vous savez, c'était l'idée qui présidait à la création du Conseil constitutionnel à l'origine. Il n'était pas né pour être ce qu'il est. On ne voulait pas d'un juge constitutionnel qui veille sur les libertés fondamentales des citoyens. Ce que l'on voulait, c'était une instance qui soit chargée de remettre le Parlement à sa place si d'aventure il essayait de sortir des bornes étroites fixées par la Constitution. Ça, c'est le mauvais état de droit. Pour le reste, alors d'accord, en effet, ça ne doit pas devenir une sorte de prolifération obsessionnelle, mais nous n'en sommes pas là.
On vient d'entendre Robert Badinter, qui a été président du Conseil constitutionnel avant moi et qui a été un ami personnel pendant près de 50 ans, définir l'état de droit et le rôle du Conseil constitutionnel. Et je fais évidemment tout à fait écho à ce qu'il a dit. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été créé en 1958, n'avait pas vocation à être une juridiction. On a dit à son propos, c'est peut-être un peu sévère, mais enfin ça fait bien comprendre les choses, que c'était le chien de garde de l'exécutif. C'est-à-dire que si le Parlement, même s'il était majoritairement gaulliste à l'époque, n'était pas tout à fait dans la ligne du gouvernement qui lui aussi était gaulliste, il fallait que le Conseil constitutionnel puisse intervenir et contredire le Parlement. Et à l'époque, évidemment, l'activité du Conseil constitutionnel était très faible puisqu'il prenait moins de 10 décisions par an. Donc, il n'y avait ni risque de burn-out, ni risque de mutinerie. Et puis, il s'est passé ce qui se passe souvent avec les institutions, c'est que petit à petit, les choses se sont modifiées et que le Conseil constitutionnel est devenu aujourd'hui ce qu'il est, c'est-à-dire une grande cour constitutionnelle, et le juge suprême en matière constitutionnelle. Alors, classiquement, on dit qu'il y a 3 étapes, et je pense que c'est juste, dans cette évolution. La première étape a lieu en 1971. Donc le Conseil a été créé en 1958, et en 1971 intervient une décision qui s'appelle Liberté d'association, le 16 juillet 1971, qui est une décision très importante parce que, au lieu que, comme jusqu'en 1971, le Conseil, lorsqu'il est saisi, compare la loi avec l'aspect institutionnel de la Constitution, en 1971, il décide de comparer la loi avec les grands principes du droit, ce qu'on a appelé plus tard le bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire, concrètement, préambule de la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et ensuite la Charte de l'environnement. Donc ça, c'est le cœur même du droit. C'est plus un contrôle pour voir si les institutions ont été respectées, c'est un contrôle pour voir si le droit, effectivement, a été respecté. Première grande étape. Deuxième grande étape, en 1974, à l'initiative du président Giscard d'Estaing, ce sont plus seulement, comme auparavant, 4 personnes en France qui peuvent saisir le Conseil. Jusque-là, c'était le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée. Et désormais, ce sont aussi 60 députés ou 60 sénateurs, c'est-à-dire en clair l'opposition. Et dès lors, évidemment, la compétence et le nombre des saisines du Conseil constitutionnel augmentent. Et puis, troisième étape, 2008, où est créée la question prioritaire de constitutionnalité, ce qu'on appelle la QPC, sur laquelle je vais revenir ensuite. Et là, c'est un changement considérable, parce que ce n'est pas simplement les lois déjà votées, pas encore promulguées, qui peuvent être déférées au Conseil, c'est tout le stock des lois existants. Et ce n'est pas seulement 4 personnalités et 60 députés ou 60 sénateurs qui peuvent saisir le Conseil, mais n'importe quel justiciable devant n'importe quelle juridiction. Alors évidemment, là, ça devient un autre Conseil constitutionnel, y compris dans le contenu de ses travaux, puisque désormais, cette fameuse QPC représente 80% du travail du Conseil constitutionnel. Donc vous voyez, c'est très intéressant d'examiner comment, à partir d'une création qui ne devait pas aboutir à une juridiction, désormais, parmi les grandes cours suprêmes en matière constitutionnelle du monde entier, le Conseil constitutionnel s'est affirmé à partir de ces 3 grandes évolutions.
Les membres du Conseil constitutionnel.
La question prioritaire de constitutionnalité, en abrégé QPC, est une innovation très importante, intervenue juridiquement en 2008 et pratiquement à partir de 2010. De quoi s'agit-il ? Jusqu'à 2008-2010, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que des lois déjà votées et pas encore promulguées. C'est ce qu'on appelle la saisine a priori. Et encore ne pouvait-il être saisi que par peu de personnalités. En 2008-2010, intervient un grand changement. Désormais, c'est tout le stock des lois existantes qui peut faire l'objet d'une saisine, non plus une saisine a priori, mais une saisine a posteriori, et désormais c'est n'importe quel justiciable qui peut saisir le Conseil avec un filtre qui est opéré soit par le Conseil d'État, soit par la Cour de cassation. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'un ou l'une d'entre vous a affaire à un litige devant le Conseil des prud'hommes, devant une cour en première instance, qu'elle soit judiciaire ou administrative, eh bien, le justiciable, vous-même, peut lever la main et dire « Madame la Présidente, Monsieur le Président du Tribunal, vous voulez m'appliquer la loi qui date de 1900, je ne sais pas quoi, 54 ? Eh bien, moi, je pense que cette loi, elle est contraire à la Constitution et j'ai déposé une QPC. » Et à ce moment-là, si la QPC est sérieuse, si elle n'a pas déjà été jugée à une autre occasion, ça remonte par un système de filtre jusqu'au Conseil d'État ou jusqu'à la Cour de cassation. Et si, effectivement, il y a matière, eh bien, le Conseil constitutionnel en est saisi. Voilà la façon dont ça se passe. Et désormais, je l'ai dit, ça représente 80% de notre activité. Et donc, la QPC est un progrès très important du droit. Et j'ai coutume de l'appeler une question citoyenne parce qu'elle peut être soulevée par tout un chacun.
Dans le prochain épisode, nous aborderons la définition de la QPC et la procédure à laquelle elle est soumise. Dans les suivants, le rôle des acteurs de la QPC, deux décisions regardées de près, et pour finir, la QPC 360 degrés, bilan et perspective. Vous voulez en savoir plus sur la QPC ? Alors rendez-vous en ligne sur le site internet du Conseil constitutionnel et sur le portail QPC 360. Vous y trouverez une base de données regroupant toutes les décisions rendues dans le cadre de cette procédure. Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé et réalisé par Leobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.